Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Gérard Filoche, porte-parole de la gauche démocratique et sociale, ancien inspecteur du travail. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Gérard Filoche, nous allons parler tout à l'heure de la situation de la gauche à 4 mois de l'élection présidentielle et de la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde avec vous un sujet qu'on évoque peu dans cette campagne électorale, l'avenir de la sécurité sociale. Un peu de pédagogie peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été proposé le mois dernier par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie? C'est un projet dit de grande sécu.
Ah, c'est étonnant, oui. J'ai entendu Olivier Véran, le ministre, proposer une grande sécurité sociale. Pourtant, c'était lui qui, le 3 juillet et le 19 juillet 2018, avait proposé de retirer l'expression « sécurité sociale » de la Constitution française. Et c'est bien Emmanuel Macron qui voulait, et veut toujours d'ailleurs, supprimer les cotisations sociales. Vous savez que si on supprime les cotisations sociales, il n'y a plus de sécurité sociale, ni grande ni petite. Et en voulant les supprimer, ça voudrait supprimer le fait que ce soit les employeurs qui payent la protection sociale de leurs salariés. C'est-à-dire, en fait, le projet de Macron qui est de faire une France start-up, ubérisée, sans statut, post-salarial et sans cotisation. Alors, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas ça au moment où Olivier Véran parle de grande sécurité sociale. Dans sa bouche, ça doit signifier quelque chose comme ce qu'ils ont fait à propos de l'assurance chômage, c'est-à-dire une étatisation de la sécurité sociale pour ensuite mieux la réduire et utiliser les fonds sociaux à d'autres fins que la situation actuelle des cotisations qui est préaffectée à la sécu. Donc ce serait une vraie contre-révolution sous couvert de grande sécu.
Alors justement, Gérard Filoche, le scénario qui semble privilégié par Olivier Véran prévoit un remboursement à 100% des dépenses de santé par l'assurance maladie. Sur le papier, cela semble plutôt une bonne nouvelle pour les assurés sociaux. Oui. Pourquoi vous n'y êtes pas favorable ?
Mais si je le croyais, je le soutiendrais, mais je ne crois pas ce que dit Olivier Véran à cause de ce que je viens d'expliquer précédemment. Je ne le crois pas à cause de la suppression des cotisations et à cause de la fiscalisation de la Sécu. La Sécurité sociale est un organisme de droit privé. C'est un organisme qui est basé sur les cotisations des salaires, c'est-à-dire le salaire brut et le salaire super brut. C'est un organisme qui est indépendant. Les cotisations ne sont pas un impôt. Elles sont préaffectées à ce pourquoi elles sont collectées, c'est-à-dire les accidents du travail, la maladie, la retraite, le chômage, le logement aussi, les allocations familiales. Tout ça est en train d'être démantelé. Donc je n'ai aucune raison de croire à son projet. Je défends le mien, le nôtre, celui de la gauche, parce que à l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, il y a eu un grand appel de la gauche qui n'a pas été reçu comme il le méritait, parce que c'était une déclaration qui était signée unanimement de Julien Bayou à Fabien Roussel, de Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure et à moi-même et à tant d'autres et à tous les syndicalistes. Ça signifiait qu'on voulait une grande sécu, mais une grande sécu unique, une grande sécu universelle, une grande sécu service public, que l'on voulait supprimer les complémentaires, les assurances, les prévoyances et les caisses diverses qui se multiplient aujourd'hui et qui coûtent si cher en gestion. Et que nous voulions effectivement qu'il y ait 100% de remboursement, c'est-à-dire la suppression des tickets modérateurs, et qu'il n'y ait pas des paniers de soins, mais qu'il y ait la totalité des soins qui soient pris en charge par une grande sécurité sociale. Alors, nous défendons cela avec d'autant plus d'ardeur que nous sommes unanimes à gauche, et c'est rare, hein, à gauche, hein. Mais c'est une question fondamentale que de dire cette grande sécurité sociale mettrait fin à la gabegie des 400 mutuelles que nous avons aujourd'hui et qui ne sont plus des mutuelles d'ailleurs. Hein, il faut gratter derrière le nom pour voir. Elles ont 25% de frais de gestion alors que la Sécu, elle, n'a que 5% de frais de gestion. Si nous fusionnions aujourd'hui tout cela, nous y gagnerions, y compris en emploi, et nous y gagnerions en efficacité, nous y gagnerions en économie d'échelle, et nous y gagnerions effectivement dans la possibilité de rembourser tous les soins, à tous les assurés. Et ça serait une sécurité sociale universelle, y compris les indépendants pourraient cotiser. de façon proportionnelle, exactement comme les salariés, avec un plafond, bien sûr. Et ils pourraient cotiser de façon à ce qu'ensuite, à partir de cotisations proportionnelles, il y ait une redistribution égalitaire, des prestations égalitaires, les mêmes droits aux soins pour tous, tous les mêmes accès aux soins. Alors la grande sécu, moi, c'est pas un rêve, c'est un combat, c'est revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale de 1945, c'est revenir à ses principes fondateurs. Ça n'a rien à voir avec le vocabulaire qui se cache derrière celui d'Olivier Véran et derrière celui de Macron. Ne vous laissez pas tromper.
Gérard Filoche, qu'en serait-il des dépassements d'honoraires, puisque de nombreux Français sont confrontés à ce phénomène. Vous voulez un rendez-vous rapidement, eh bien vous devez payer et vous n'êtes pas remboursé.
Bah oui, c'est comme tout ce qui a été privatisé, c'est les lits privés ou les cliniques privées qui ne fonctionnent pas face au Covid et qui, quand elles fonctionnent ou quand ce sont des spécialistes, coûtent plus cher, ce qui fait une médecine à deux vitesses. Nous sommes évidemment contre ça. S'il y a une grande sécu, c'est pour prendre en charge tous les soins, c'est pour prendre en charge tous les besoins en matière de santé et c'est pour les gérer dans de bien meilleures conditions qu'aujourd'hui. Et donc, nous ne voulons pas ces dépassements d'honoraires. Hein. De même qu'on ne veut pas que les grands laboratoires se gobergent sur le dos de la Sécu pour fournir des médicaments au compte-gouttes dans des conditions de paiement qui ne sont pas transparents et dans des conditions où on pourrait effectivement obtenir mieux sans donner des temps de profit aux actionnaires. La santé ne doit pas faire l'objet de profit. La santé est un bien gratuit pour tous. La santé, elle coûte, mais en même temps, elle fait vivre, elle rapporte, parce que c'est ce qui permet aux humains de survivre et de produire. Et la santé, c'est la base pour notre société. Si on n'a pas de santé, on sait bien, la vie n'est pas belle.
Gérard Filoche, à droite, Valérie Pécresse souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Éric Zemmour, lui, parle de 64 ans. Édouard Philippe, principal soutien d'Emmanuel Macron, parle, lui, de 67 ans. Et pour l'OCDE, l'âge légal de départ à la retraite actuellement fixé à 62 ans en France paraît très bas pour assurer le financement des pensions face au vieillissement attendu de la population. Est-ce qu'on peut maintenir le système actuel, voire revenir à la retraite à 60 ans ?
Permettez-moi de dire que la retraite est financée, contrairement à tous les bruits qui ont circulé. Qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans à taux plein, et que c'est nécessaire. Parce que c'est en raccourcissant la durée du travail sur la vie, et d'ailleurs aussi sur la semaine à 32 heures, que l'on peut lutter contre le chômage. Ils disent que le chômage a régressé, c'est faux. Il y a 6,6 millions de chômeurs. Ils font régresser les chiffres, mais pas la réalité. Et donc, il y a 25% de jeunes qui n'ont pas de boulot. Refaisons arrêter le travail à ceux qui, à 60 ans, sont bien usés, et donnons du travail aux jeunes. D'autant que nous savons tous que l'espérance de vie est en train de reculer et que l'espérance de vie en bonne santé est seulement de 63 ou de 64 ans. Par conséquent, il faut avoir quand même le temps de la vivre, sa retraite. Hein. Les années entre 60 et 65 ans sont les plus belles années de la retraite et les années entre 60 et 65 ans sont les plus dures années au travail. La biologie du corps humain n'a pas changé, hélas, et nous savons tous que vers 55 ans, toutes les tâches mentales et physiques deviennent plus dures. Donc il faut une retraite, un droit à la retraite à 60 ans, du travail pour tous, une répartition du travail et du boulot pour les jeunes. Et il y a l'argent pour ça, contrairement à tout ce qu'ils nous disent. Il n'y a même pas besoin de crier coûte que coûte ou d'aller chercher de l'argent secret. Il suffit parfaitement de faire ajuster les cotisations de salariales et retraite aux besoins qui sont nécessités par la retraite.
Gérard Filoche, comment expliquez-vous la faiblesse de la gauche à 4 mois de l'élection présidentielle ? Est-ce que c'est dû seulement à la multiplication des candidatures ?
Alors il y a une raison lointaine. C'est il y a 5 ans, le bilan du quinquennat maudit de Hollande et de Valls. Hein, ça a payé lourd, ça a fait des séquelles. Hein, et on s'en sort tout juste. Mais ce n'est plus la seule raison. Parce que la division, maintenant, compte. Quand vous avez 8 ou 9 candidats de gauche, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent ? Moi, je distribue un tract sur le marché, les gens me disent « Ah, mettez-vous d'accord d'abord et puis on le lira ». Comment voulez-vous intéresser les gens au programme ? On dit « Oui, il y a des bons programmes, je suis sûr, il y a des bons programmes. Il y a un bon programme de la gauche démocratique et sociale. J'ai lu aussi le programme de Mélenchon, tout cela, c'est bon. Mais le problème, c'est que ça n'intéresse pas les gens s'ils ne croient pas que ces programmes ont la moindre chance de s'appliquer. Pour qu'ils puissent s'appliquer, il faut qu'il n'y ait pas 8 ou 9 candidats. Parce que la situation est claire avec Le Pen, Zemmour, Pécresse et puis Macron. Eh bien, si la gauche, elle ne s'unit pas, elle ne passe pas. Si vous avez 2 candidats de gauche au premier tour, vous n'êtes pas au deuxième. Et si vous avez 8 candidats, c'est affreux, là. Mais les gens vont jeter des tomates dans les meetings. C'est impossible de présenter 8 ou 9 candidats quand on a une telle menace avec Macron. Macron, ça va être l'ubérisation. Macron, ça va être le recul du droit du travail encore plus. On va être encore plus précarisé. Il veut une société totalement sans statut. Et s'il a 50 plus, ce sera terrible, terrible, y compris pour la sécu dont nous venons de parler. Et donc, pour ça, c'est en 2022 qu'il faut gagner. Il ne faut pas repousser à 2027. Et la priorité, ce n'est pas de faire valoir tel parti ou tel parti, tel candidat ou tel candidat. La priorité, c'est de sauver le salariat tout entier des menaces de Macron. La priorité, c'est de battre Macron-Le Pen. Et pour ça, il y a l'unité. Il faut l'unité. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, si vous me permettez, je constate que l'unité, elle n'est pas si difficile que ça à faire. 80% des programmes sont communs. C'est une question de volonté politique. Et si elle se fait, elle se ferait pas aujourd'hui sur des plateformes comme l'ancienne plateforme de Hollande. Elle se ferait sur une plateforme vraiment à gauche. Parce qu'il n'y a personne qui est hégémonique pour empêcher qu'on fasse un bon programme. Parce que jamais ça a été aussi propice pour faire une union de la gauche qui soit meilleure que toutes les précédentes. Et donc, moi, je vois que ça bouge. Hein. Là, j'ai écouté Anne Hidalgo qui dit, bon, voilà, primaire. Bon, j'écoute Montebourg qui dit, primaire, j'appelle les 5 candidats de gauche. J'écoute Christiane Taubira qui dit « Je vais peut-être me présenter si ça peut faire unir tout le monde ». Je viens d'écouter Ségolène Royal qui dit « Ah, bah si Hidalgo veut se retirer, on comprend qu'elle en ait envie, mais il faut qu'elle appelle à ce moment-là à soutenir Mélenchon ou Jadot, car les deux existent ». Bah oui, il faudrait aussi que Mélenchon rencontre Jadot et qu'il appelle à une réunion unitaire aussi de tout le monde, de la même façon que la primaire populaire le fait. On sent que ça bouge, que ça frémit, que les portes s'ouvrent. Moi qui me batte pour l'unité depuis tant de temps, j'ai le cœur qui bat aujourd'hui, parce que je me dis que c'est possible. On a le temps, on a encore 4 mois, on peut faire un bon programme, une bonne plateforme commune, et si on se met ensuite d'accord sur un accord général, il faut un gouvernement EELV, PS, PCF, et puis LFI, et puis d'autres. Il faut un accord avec qui sera président et qui sera premier ministre. Mais tout ça, s'il y a la volonté, il y a un chemin, on va y arriver. Et si on y arrive, vous allez voir se lever des millions d'électeurs de gauche. Contrairement à tout ce qu'ils disent, la gauche n'est pas minoritaire dans ce pays. La gauche, c'est le salariat, c'est 88% des actifs. Ils ont intérêt à ce que la gauche gagne et pas à ce que ce soit LREM, LR, RN et compagnie. Et donc la gauche va se lever s'il y a unité. Et on verra que le programme qui en sortira sera forcément un programme très à gauche et très très dynamique, très... Ah, ça pourra faire une vraie transformation sociale. Nous brûlons en ce moment, nous sommes au bord de pouvoir faire ça si tout le monde se rend compte ensemble et travaille ensemble.
Vous souhaitez un nouveau 10 mai 1981, Gérard Filoche ?
Oui, ce serait même mieux, ce serait même mieux. Parce que s'il y a l'unité aujourd'hui, personne dans la gauche ne peut diriger. Il n'y a pas un parti qui imposera à l'autre. Et donc, il y aura forcément une alliance, une coalition. Et ça reflétera davantage les aspirations populaires. Ça reflétera davantage les besoins du salariat. Donc, on peut faire bien mieux que le 10 mai 81 et bien mieux que le 6 mai 2012. On a l'occasion si on s'unit. Et ça, il faut que Jean-Luc Mélenchon, Jadot, tous le comprennent. La porte qui s'est ouverte, quelles que soient ses raisons, par Anne Hidalgo, est une bonne porte. Si on se met à retravailler tous, on avait fait avec la primaire populaire un socle commun, on disait. Et il était bien, hein, il y avait 10 mesures de rupture, des 48 sous-mesures de rupture, c'était le début d'un bon programme de gauche. Et il faudrait qu'on se réunisse à nouveau, que la primaire populaire nous réunisse, sans exclusive, hein, sans hégémonie, tous, on était 14 sensibilités. GDS y a participé, moi j'ai participé à l'écriture de ça. Faut qu'on se retrouve tous et qu'on continue d'écrire en mieux jusqu'au bout. Et là, dans les semaines qui viennent, autour de décembre et début janvier, si on arrive avec un projet, un mouvement pour une candidature commune. S'il faut des primaires, Si, on peut s'entendre en consensus, on s'entend en consensus. Ce qu'il faut, c'est faire tout ce qu'on doit pour l'unité.
Et l'unité, elle passe d'abord par le projet, pas sur le nom d'un futur président de la République.
Oh, bah oui, de toute façon, dans l'état actuel des choses, même le Parti Socialiste dit qu'il veut rompre avec la Ve République sans vouloir une sixième, mais bon, ça peut se clarifier, ça. C'est plus la présidence qui compte, c'est le fait qu'il y ait une majorité à l'Assemblée ensuite. C'est le fait qu'il y ait, un peu comme au Chili avec la constituante de là-bas, le fait qu'il y ait une volonté de bousculer les institutions et d'aller vers une autre constitution. Et puis ça commence par le concret, pas le concret. Le concret, c'est le social. Le concret, c'est ce qu'on a dans nos assiettes. Le concret, c'est la hausse de salaire. C'est le SMIC. Moi, je le situe à 1800 euros, comme le fait la CGT. Mais c'est la hausse massive du SMIC. Regardez, 1800 euros, il y a eu 30% d'augmentation du SMIC qui vient de se faire en Allemagne. Eh ben, pourquoi on ferait pas ça? Je vous assure que ça nous amène à 1800 euros. Il faut venir à la retraite à 60 ans dont je parlais. Il faut venir à une réduction du temps de travail parce que c'est la seule chose qui fera disparaître les 6,6 millions de chômeurs. Il faut aussi que la précarité soit stoppée. Savez-vous qu'en Allemagne, ils ont interdit aux entreprises de plus de 300 salariés d'avoir plus de 2,5% de précaires, c'est-à-dire de non-CDI. Ben, il faut instaurer ça aussi en France, bien sûr. Et puis ensuite, il faut un salaire maximal pour distribuer les richesses. On ne peut pas accepter que des gens gagnent plus que 20 fois le SMIC. Ben, c'est pas possible. Aucun humain ne mérite ça, d'avoir 20 fois plus qu'un autre. On a tous les mêmes besoins, même si on a du génie. Et donc, on peut arriver à une partage des richesses, à une fiscalité qui permette de donner la priorité à l'impôt direct et progressif, qui permette de baisser la TVA pour les produits de première nécessité, qui permettent de réorienter la vie quotidienne de millions et de millions de gens qui sont aujourd'hui pauvres et qui sont aujourd'hui plongés même dans les besoins de la faim. Alors en France, on a ça, on peut y mettre fin, on peut redistribuer les richesses. Alors on dit oui, il faut les créer, mais la France n'a jamais été aussi riche. Pendant la pandémie, le CAC 40 a fait ses meilleurs mois. Les entreprises, les grandes entreprises, les 1000 grandes entreprises du sommet se sont goinfrées. Et donc, on peut redistribuer ces richesses. Vous avez vu que Pandora Leaks fait état qu'il y a 11 300 milliards de cachés dans les paradis fiscaux. Et pour la seule France, c'est 600 milliards. On récupérera ces 600 milliards si on est au pouvoir. Et on fera du bien aux gens. Alors que tous les programmes d'austérité de Madame Pécresse, de M. Macron, de Mme Le Pen, tous des candidats des riches, tous ces programmes-là vont nous faire du mal. Empêchons-les, gagnons, unissons-nous et ayons un programme social et un programme écologique.
Merci Gérard Filoche. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la gauche démocratique et sociale, ancien inspecteur du travail. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.